Après les funérailles de son père, Chang Baiyei retourna dans le dock de construction du Tang, accompagné de Wu Yu. Les travaux sur le porte-avions avaient été entièrement interrompus, les traces de soudure avaient disparu de la coque et, sous le soleil de midi, l'énorme bâtiment ne montrait plus aucun signe de vie. Il donnait l'impression d'avoir connu toutes les vicissitudes de l'histoire. « Lui aussi est mort, » souffla Chang Baiyei. « Ton père était le plus sage de tous les hauts officiers de la marine. S'il était encore là, je n'aurais peut-être pas plongé si bas, » lâcha Wu Yu. « Ton défaitisme est bâti sur une base rationnelle. Du moins, il est conforme à ta propre raison. Je ne crois pas que quiconque puisse vraiment arriver à te redresser. Wu Yu, je ne suis pas venu ici pour te demander pardon. Je sais que tu n'éprouves pas de haine à mon égard. Je veux te remercier, Baiyei. Tu m'as libéré. Tu pourras retourner dans la marine. Ils auront sûrement un poste pour toi qui te correspondra mieux. » Wu Yu secoua lentement la tête. « J'ai déjà formulé ma demande officielle de démobilisation. Qu'est-ce que je retournerai y faire ? Tous les projets de construction de destroyers et de corvettes ont été annulés. Il n'y a plus aucune place pour moi sur les navires de guerre. Aller m'asseoir dans un bureau de l'état-major, je n'y pense même pas. Et puis je n'ai plus aucune légitimité. Un militaire qui accepte de s'engager corps et âme uniquement dans une guerre où il est persuadé de la victoire n'est pas un bon militaire. » Victoire ou défaite, aucun d'entre nous ne la verra. Mais tu as confiance dans la victoire, Baiyei. Je t'admire vraiment au point d'en être jaloux. À notre époque, avoir une telle foi, c'est un bonheur suprême pour un militaire. Tu es bien le digne fils de l'amiral Chang. Alors quels sont tes projets pour l'avenir? Aucun. J'ai l'impression que ma vie est déjà terminée. Wu Yu pointa le Tang au loin. Comme lui. Mort avant même son lancement. Un bourdonnement sourd leur parvint du dock. Le Tang se déplaça lentement. Afin d'être évacué, il n'avait d'autre choix que d'être mis à l'eau, puis tracté par un remorqueur vers un autre dock pour y être démantelé. Lorsque la proue effilée du navire fendit l'eau de mer, Chang Baiyei et Wu Yu eurent l'impression que cette immense masse reprenait un peu de vie. Il entra rapidement dans l'eau, provoquant des vagues telles que tous les autres bateaux du port furent soulevés puis redéposés dans l'eau, comme s'ils rendaient au Tang un dernier hommage. Rampant à la surface, le navire avança lentement, jouissant paisiblement de l'étreinte de la mer. Durant la carrière éphémère et brisée de cet énorme vaisseau, il aurait au moins été en contact une fois avec l'océan. Le monde virtuel des trois corps était enveloppé de ténèbres. En dehors de quelques rares éclats d'étoiles, tout était immergé dans une atmosphère d'encre. On ne voyait même pas la ligne de l'horizon. La plaine déserte se confondait avec l'obscurité nocturne du ciel. « Administrateur, passez en mode R régulière. N'avez-vous pas vu que la réunion allait débuter ?» cria une voix. La réponse sembla provenir des tréfonds du ciel. « Impossible ! Les airs alternent de façon aléatoire. Je ne peux pas les définir manuellement. » Une autre voix résonna dans les ténèbres. « Alors accélérez le temps du jeu pour que nous nous retrouvions dans une atmosphère plus stable. Ça ne devrait pas être si long. » Le monde se mit à scintiller et des soleils traversèrent chaotiquement le ciel, mais très vite, la vitesse du jeu redevint normale et ce fut au tour d'un soleil régulier d'illuminer le monde. « Voilà !» « J'ignore combien de temps ça va durer, » dit l'administrateur. Les rayons du soleil éclairaient un groupe de gens sur la plaine, dont certains avaient un visage familier. Le roi Wen Dechu, Newton, von Neumann, Aristote, Mozi, Confucius, Einstein et les autres. En petit nombre, ils se tenaient debout, tournés vers l'empereur Qin Shi Huang, perché pour sa part au sommet d'un rocher, sa longue épée entre les épaules. « Je ne suis pas seul !» dit Qin Shi Huang. « Je parle au nom des 7 leaders de l'organisation. Vous ne devriez pas utiliser ces termes. La gouvernance de l'OTT n'a pas encore été confirmée !» lança quelqu'un, et une clameur s'éleva. « Il suffit !» rugit Qin Shi Huang en levant avec effort sa longue épée. « Laissons la controverse sur la gouvernance de l'organisation de côté pour l'instant. ce dont nous avons à traiter est plus urgent. Tous ici savent que le programme colmateur a été officiellement lancé. L'humanité essaye de faire appel à des stratégies mentales secrètes et individuelles pour déjouer la surveillance des intellectrons. Les dieux dont les pensées sont transparentes ne pourront pas pénétrer dans ces labyrinthes. Avec ce programme, l'humanité a repris l'initiative. Les quatre colmateurs constituent désormais une menace pour les dieux. En vertu de la décision prise lors de notre dernière réunion hors ligne, il est aujourd'hui temps d'annoncer la mise à exécution du plan fissureur. En entendant ce dernier mot, tous se turent et personne ne souleva plus aucune objection. « Il nous faut désigner un fissureur par colmateur, » poursuivit Xin Shi Huang. « Comme pour les colmateurs, les fissureurs pourront puiser dans les ressources de l'organisation, mais leur plus grande ressource sera les intellectrons. Ceux-ci les informeront sur chaque geste, chaque mouvement des colmateurs. La seule chose qui restera hermétique sera le contenu de leurs pensées. La mission des fissureurs est donc, avec l'aide des intellectrons, de décrypter sur la base des agissements publics et secrets des colmateurs leur véritable visée stratégique. Je vais à présent désigner les fissureurs que nous avons choisis. » Xin Shi Huang sortit l'épée de son fourreau et la posa sur les épaules de Fan Neman, comme s'il s'apprêtait à l'adouber. « Toi, premier fissureur, tu seras le fissureur de Frederick Taylor. » Von Neumann s'agenouilla et plaça sa main gauche sur son épaule droite. « J'accepte cette mission. » Xin Shi Huang effleura ensuite l'épaule de Mo Zi avec son épée. « Toi, deuxième fissureur, tu seras le fissureur de Manuel Rey Diaz. » Mo Zi ne s'agenouilla pas, il bomba le torse et hocha la tête avec fierté. « Je serai le premier à réussir. » Ce fut au tour d'Aristote. Toi, troisième fissureur, le fissureur de Bill Hines. » Aristote non plus ne s'agenouilla pas. Il secoua sa toge et murmura comme s'il était plongé dans ses pensées. Oui, ça ne pouvait être que moi. Xin Shi Huang rangea son épée puis jeta un regard circulaire sur le petit groupe. Bien, le sort en est jeté. Comme les colmateurs, vous êtes des élites parmi les élites. Que les dieux soient avec vous. « Grâce à l'hibernation, vous allez pouvoir commencer votre long voyage vers la fin des jours. »« Je ne crois pas que l'hibernation sera nécessaire, » dit Aristote. « Nous pourrons accomplir notre mission de fissureur avant la fin de notre vie normale. » Mo Zi approuva d'un hochement de tête. « Le moment venu, j'apparaîtrai à visage découvert devant mon colbateur, et je jouirai comme il se doit à la vue de l'anéantissement de son esprit par la souffrance et le désespoir. » Cela vaut bien que j'y consacre le restant de ma vie. » Les deux autres fissureurs affirmèrent eux aussi qu'ils iraient rendre visite à leur colmateur quand ils auraient percé leur stratégie. Von Neumann ajouta, « Nous démasquerons les derniers secrets que l'humanité pourra encore garder cachés aux yeux des intellectrons. Ce sera là l'ultime action que nous pourrons faire au service des dieux. Après cela, nous n'aurons plus aucune raison d'exister. » Et le fissureur de Luoji ? Demanda quelqu'un. Cette question sembla ébranler l'esprit de Xin Shi Huang. Il tira son épée et la planta dans le sol, méditatif. C'est alors que le soleil accéléra sa descente, allongeant les ombres jusqu'aux confins du ciel. Une fois que l'astre se fut à moitié couché, il changea brusquement de direction et longea en oscillant la ligne de l'horizon, comme le dos brillant d'une baleine remontant de temps en temps à la surface d'un océan noir, plongeant cette simple plaine désolée et le petit groupe de personnes dans une alternance entre lumière et ténèbres. Luoji sera son propre fissureur. Il devra lui-même trouver la menace qu'il fait peser sur les dieux, lâcha Xin Shi Huang. Connaissons-nous cette menace ? Demanda quelqu'un. Non, mais les dieux la connaissent et Evans la connaissait. Evans a appris aux dieux à dissimuler ce secret et il est mort à présent. Nous n'en savons donc rien. Parmi tous les colmateurs, Luoji représente-t-il la plus grande menace ? Osa une voix hésitante. Cela, nous l'ignorons, mais nous sommes sûrs d'une chose. Tsin Chi Wang leva les yeux vers la voûte céleste qui ne cessait de se métamorphoser, passant du bleu au noir. « Des quatre colmateurs, il est le seul à affronter directement les dieux. » Salle de réunion du département politique de l'armée spatiale. Après avoir déclaré le début de la réunion, Chang Weizi resta un long moment silencieux. Ça ne lui était jamais arrivé par le passé. Ses yeux transpercèrent les deux rangées d'officiers politiques assis à la table de réunion et plongèrent dans un lointain infini tandis qu'il pianotait légèrement avec son crayon à papier sur la surface de la table. Ce faible tic-tac paraissait rythmer la cadence de ses pensées. Il s'extirpa enfin de sa rêverie. « Camarades, la commission militaire centrale a annoncé officiellement hier que je prendrai dorénavant la tête du département politique de l'armée spatiale. Voilà déjà une semaine que j'ai accepté cette responsabilité, mais maintenant que nous sommes assis ici ensemble, je suis pris d'un sentiment contradictoire. Je me rends soudain compte que j'ai devant moi le groupe d'officiers dont la tâche est la plus rude de toute la spatiale. Et je le comprends seulement aujourd'hui que je suis devenu l'un des vôtres. Je n'y avais jusqu'à aujourd'hui pas accordé l'attention méritée, et je vous adresse à tous mes excuses. » Ceci dit, Chang Weizi repoussa les documents qui se trouvaient devant lui. « Cette partie de la réunion ne fera l'objet d'aucun compte-rendu. Camarades, prenons un moment pour échanger à cœur ouvert. Pour une fois, soyons tous des trisolariens et exprimons nos pensées à nos interlocuteurs. C'est un exercice important dans la perspective de notre travail futur. » Le regard de Chang Weizi s'attarda une ou deux secondes sur le visage de chaque officier, mais aucun d'entre eux ne prit la parole. Chang Weizi se leva et fit le tour de la table, marchant lentement derrière la rangée d'officiers assis. « Notre devoir est de faire en sorte que nos troupes aient foi dans la victoire lors de l'ultime bataille. Mais nous-mêmes, partageons-nous cette foi ? Que ceux dont la réponse est positive lèvent la main. Je vous rappelle que nous parlons à cœur ouvert. » Nul ne leva la main. Presque tous les officiers avaient les yeux figés sur la table. Mais Chang Weizi remarqua que l'un d'eux le fixait obstinément. Chang Beiyei. Chang Weizi poursuivit. « Qui sont ceux qui considèrent que la victoire est possible ? Attention, quand je dis possible, je ne parle pas d'un succès accidentel à 0% et des poussières, mais bien d'une vraie chance de victoire. » Chang Beiyei leva la main. Il fut le seul. « Je souhaiterais tout d'abord vous remercier, camarades, pour votre sincérité, » affirma Chang Weizi. Puis se tournant vers Chang Beiyei. « Très bien, camarade Chang Beiyei, « dis-nous sur quel fondement repose ta confiance ?» Chang Beiyei se leva, mais Chang Weizi lui fit signe de se rasseoir. « Ce n'est pas une réunion protocolaire. Nous discutons simplement entre nous, en toute franchise. » Chang Beiyei resta debout. « Amiral, il m'est difficile de répondre à votre question en une ou deux phrases. Une foi s'acquiert après un processus long et complexe. Je voudrais simplement évoquer ici la pensée erronée qui se répand en ce moment au sein de l'armée. Personne n'ignore qu'avant la crise trisolarienne, nous avions toujours prôné d'appréhender les guerres futures avec une perspective scientifique et rationnelle. Par la force de l'habitude, cette manière d'envisager le conflit est toujours en usage aujourd'hui, particulièrement au sein de la spatiale. Cette idéologie est d'autant plus exacerbée depuis qu'un grand nombre de chercheurs et de scientifiques nous ont rejoints. Si nous persistons dans une telle approche pour appréhender la guerre interstellaire qui aura lieu dans 4 siècles, je crains que nous ne puissions jamais établir une quelconque foi dans la victoire. « J'ai du mal à suivre le camarade Chang Beiyei, » dit un colonel. « Une foi solide ne doit-elle pas précisément prendre source dans la science et la raison ? Une foi qui ne reposerait pas sur un examen objectif et factuel de la réalité serait nécessairement fragile. » « Regardons différemment ce que nous appelons la science et la raison. Rappelons-nous que quand nous parlons de science et de raison, ce sont les nôtres. Or, le niveau de développement atteint par la civilisation trisolarienne nous apprend que notre science n'est rien de plus qu'un enfant ramassant des coquillages sur une plage sans jamais avoir vu la mer. Par conséquent, La vérité que nous donne à voir notre propre science et notre propre raison peut très bien ne pas être factuelle et objective. Et même si c'était le cas, nous devons apprendre à l'ignorer de façon sélective. Nous devons comprendre que les choses changent à mesure de leur évolution et que nous ne pouvons pas nous fonder sur un déterminisme technologique ou un matérialisme mécanique pour conclure que notre avenir est déjà mort. Bien. Excellent, approuva Chang Weizi dans un hochement de tête, l'incitant à poursuivre. La foi dans la victoire a besoin d'être construite. Cette foi, c'est la base même du devoir et de l'honneur militaire. Il fut un temps où l'armée de notre pays, dans des conditions extrêmement difficiles et face à de puissants adversaires, réussissait à établir une telle confiance dans la victoire en se rappelant sa responsabilité envers la nation et le peuple. J'estime qu'aujourd'hui encore, au nom cette fois de notre responsabilité envers l'humanité et toutes les civilisations de la Terre, nous devons brandir cette foi. Mais comment entreprendre concrètement ce travail idéologique ? Demanda un officier. Comme vous le savez, l'armée spatiale est composée de différentes sections, ce qui rend d'autant plus complexe le changement des mentalités. Le travail qui nous attend est considérable. Je crois que, pour l'heure, il nous faut déjà commencer à travailler sur les mentalités de nos troupes, dit Chang Beiyei. D'un point de vue global, d'abord. La semaine dernière, je suis allé faire une visite d'inspection des troupes de l'armée de l'air et de l'armée de mer qui viennent d'être détachées pour la spatiale. J'ai découvert que leurs exercices quotidiens étaient incroyablement relâchés. À plus petite échelle, j'ai noté de plus en plus d'entorses à la discipline et un laisser-aller coupable dans le port des uniformes. C'était le jour où tous les uniformes devaient être changés au profit de ceux de la saison estivale, mais beaucoup de membres de l'état-major avaient encore leurs uniformes d'hiver. Cet état d'esprit doit changer le plus vite possible. Ouvrez les yeux. L'armée spatiale est en train de devenir un centre de recherche scientifique. Bien entendu, je ne nie pas que notre mission est aujourd'hui celle d'une académie de sciences militaires, mais nous devons prendre conscience que nous sommes des soldats avant tout et des soldats en guerre. La conversation se prolongea encore quelques instants, puis Chang Weizi retourna à sa place. Merci à tous. J'espère que nous aurons à l'avenir d'autres occasions de tenir ce genre de discussion franche. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'ordre du jour officiel de cette réunion. Tandis qu'il parlait, les yeux de Chang Weizi recroisèrent ceux de Chang Beiyei. Il se sentit revigoré par la détermination qui perçait derrière son calme apparent. Chang Beiyei, je connais ta foi. Il ne pouvait en être autrement avec un père comme le tien. Mais les choses ne sont pas aussi simples que tu le prétends. J'ignore sur quelle fondation repose ta confiance. J'ignore même si elle en embrasse encore davantage. Comme pour ton père, je le respectais profondément, mais je dois reconnaître que jusqu'à la fin, je ne suis pas arrivé à le cerner. Chang Weizi feuilleta les documents qu'il avait devant lui. Aujourd'hui, les recherches théoriques sur la guerre spatiale battent leur plein, mais elles sont très vite tombées sur un os. Elles doivent prendre comme système de référence un certain niveau de développement technologique. Or, les recherches fondamentales viennent à peine de commencer et les percées technologiques ne sont pas pour demain. Par conséquent, nous ne disposons d'aucune base véritable sur laquelle nous appuyer. À la lumière de cette situation, l'état-major a décidé de réévaluer ce programme de recherche et de le diviser en 3 sections, plus à même d'anticiper les échelons technologiques qui seront peut-être franchis dans le futur. Il s'agit respectivement de la stratégie de basse technologie, la stratégie de moyenne technologie et la stratégie de haute technologie. Les frontières entre ces 3 échelons sont actuellement en train d'être définies, de même qu'un grand nombre de paramètres indicateurs au sein de chaque discipline scientifique. Les paramètres centraux seront néanmoins la vitesse et le périmètre de navigation d'un vaisseau spatial de 10 000 tonnes. Pour ce qui est de la basse technologie, la vitesse des vaisseaux devra atteindre 50 fois la 3e vitesse cosmique, soit environ 800 km par seconde. Ces vaisseaux ne seront toutefois pas équipés d'un écosystème régénératif. Dans ces conditions, leur rayon de combat sera limité au système solaire interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'orbite de Neptune, à une distance de 30 unités astronomiques du Soleil. Pour la moyenne technologie, La vitesse des vaisseaux devra atteindre 300 fois la troisième vitesse cosmique, soit à peu près 4 800 km/s. Les vaisseaux devront être équipés d'un écosystème régénératif partiel. Dans ces conditions, leur rayon de combat s'étendra jusqu'à la ceinture de Kuiper, une zone en forme d'anneau située aux marges du système solaire, composée d'une multitude de corps minuscules couverts de glace, à l'intérieur d'une zone distante de 1000 unités astronomiques du Soleil. Pour la haute technologie, la vitesse des vaisseaux devra atteindre 1000 fois la troisième vitesse cosmique, soit à peu près 16 000 km/s, soit 5% de la vitesse de la lumière. Ces vaisseaux seront équipés d'un écosystème régénératif intégral. Dans ces conditions, leur rayon de combat sera étendu jusqu'au nuage d'Oort, un nuage composé de corps célestes et de débris situés autour du système solaire et abritant un grand nombre de noyaux de comètes. Et ils représenteront une première étape vers des vaisseaux aux capacités de navigation interstellaire. Le défaitisme représente la plus grande menace pour les forces spatiales. Et c'est pourquoi la mission dont les responsables du département politique auront la charge est cruciale. Il s'agit de participer pleinement à la recherche de stratégies militaires spatiales et d'éradiquer la contamination défaitiste qui se propage jusque dans le secteur des théories fondamentales afin de garantir la juste direction des recherches à mener. Ceux qui sont présents ici aujourd'hui deviendront membres du groupe de recherche en théorie militaire de l'armée spatiale. Bien que les trois sections évoquées soient appelées à se recouper en partie, les organes de recherche fonctionneront indépendamment les uns des autres. Ils sont provisoirement appelés Bureau des recherches de stratégie de basse technologie, Bureau des recherches de stratégie de moyenne technologie et Bureau des recherches de stratégie de haute technologie. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir connaître le bureau que vous avez l'intention de rejoindre afin que cette sélection serve de référence lors de la prochaine répartition des postes au sein du département politique. Je vous invite à présent à exprimer votre choix. Parmi les 32 officiers du département politique, 24 choisirent d'intégrer le bureau des recherches de stratégie de basse technologie, 7 celui de stratégie de moyenne technologie, tandis que Chang Beiyei fut le seul à choisir les stratégies de haute technologie.
On dirait que le camarade Beiyei aime la science-fiction,
lança un officier, soulevant quelques rires.
J'ai choisi notre seul espoir de victoire. Ce n'est qu'en atteignant ce niveau technologique que l'humanité pourra bâtir un système suffisamment efficace pour défendre la planète et le système solaire,
rétorqua Chang Beiyei.
Nous ne sommes même pas en mesure actuellement de maîtriser la fusion nucléaire. Alors propulser un vaisseau de 10 000 tonnes à une vitesse équivalent à 5% de la vitesse de la lumière, 1000 fois plus rapide que nos vaisseaux humains actuels, de la taille d'un camion, ce n'est même plus de la science-fiction, c'est du fantastique. Mais il nous reste 4 siècles, si je ne m'abuse. Essayons d'envisager le développement technologique à long terme.
Mais les théories fondamentales de la physique sont déjà complètement paralysées.
Nous n'avons pas encore exploité ne serait-ce 1% du potentiel permis par les théories déjà existantes,
répliqua Chang Beiyei.
J'ai le sentiment que le plus grand obstacle, c'est l'approche de la communauté technologique actuelle qui dilapide énormément de temps et d'argent sur des technologies rétrogrades. Prenons l'exemple de la conception des moteurs cosmiques. Rien ne justifie plus aujourd'hui de travailler sur le moteur à fission nucléaire, mais on y consacre pourtant une énorme part des ressources de recherche et de développement, et une plus importante encore au développement d'une nouvelle génération de moteurs à propulsion chimique. Les efforts devraient être concentrés sur la recherche d'un moteur à fusion nucléaire et même directement un moteur à fusion nucléaire qui puisse se passer de médium de propulsion. Le même problème existe dans d'autres disciplines. Les écosystèmes régénératifs clos, qui constituent une technologie essentielle pour les vols interstellaires, ne sont pas dépendants des théories fondamentales de la physique. Mais les recherches dans ce domaine sont encore trop limitées.
Chang Weizi prit la parole.
Le camarade Chang Beiyei a le mérite d'attirer notre attention sur un point. À l'heure actuelle, les communautés militaires et scientifiques sont occupées à lancer leurs propres chantiers, mais ne communiquent pas assez entre elles. Fort heureusement, les deux bords ont pris conscience de cette situation, et nous sommes en train d'organiser une réunion conjointe qui rassemblera des représentants militaires et scientifiques. Par ailleurs, Des organes spécialisés ont déjà été constitués de chaque côté pour renforcer les échanges entre militaires et scientifiques. Ils permettront de mettre en place une plateforme interactive adéquate entre les stratégies militaires et les recherches technologiques. La prochaine étape sera de fournir des représentants de l'armée aux différents instituts de recherche scientifique et d'intégrer dans le même temps des scientifiques aux équipes de recherche sur les stratégies militaires des forces spatiales. Encore une fois, nous ne pouvons pas attendre passivement une soudaine percée technologique. Nous devons développer nos propres stratégies militaires qui serviront de moteur à tous les domaines de recherche. Il nous faut à présent évoquer un autre niveau de coopération, celui entre l'armée spatiale et les collimateurs.
Les collimateurs ?
S'interrogea avec surprise un officier. Vont-ils s'ingérer dans le travail des forces spatiales ? Aucun indicateur ne nous permet pour l'instant de le penser, mais Taylor a émis le souhait de venir effectuer une visite d'observation au sein de notre armée. Nous devons être clairs. Les collimateurs ont de ce point de vue un pouvoir certain, et si leur ingérence se confirme, cela aura peut-être des conséquences insoupçonnées. Nous devons y être psychologiquement préparés. Le moment venu, nous devrons travailler à maintenir un équilibre entre le programme collimateur et le programme général de défense.
Une fois la réunion terminée et les participants dispersés, Chang Weizi demeura assis dans la salle de réunion vide. Il alluma une cigarette. La fumée flotta dans un faisceau de soleil qui perçait à travers la fenêtre et parut s'embraser.
Quoi qu'il arrive, désormais, il fallait bien que tout commence, pensa-t-il.